Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, le plaidoyer d'une Touareg engagée pour des services de santé plus adaptés. Nous allons à la rencontre de Maryam Aboubakrine, une travailleuse de santé qui a récemment été élue au sein de l'instance permanente des peuples autochtones de l'ONU. Bonne écoute. Maryam Aboubakrine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accorder cet entretien à la Radio des Nations Unies. Vous êtes au siège de l'ONU à New York. Vous êtes ici en tant que membre de l'instance permanente sur les questions des peuples autochtones. La 13e session de cette instance vient d'ouvrir ses portes avec plus de 1500 participants. Quel va être votre message ?
Le message principal qui porte sur le thème principal de cette session, qui est la bonne gouvernance, c'est d'impliquer davantage les peuples autochtones dans toutes les décisions qui les concernent et pour tous les projets qui sont élaborés pour eux. Ça, c'est la condition sine qua non pour la réussite de toute action pour les peuples autochtones.
Alors, vous venez d'où ?
Cette question m'intimide un peu parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas appartenir à un pays, mais plutôt à un peuple. Donc, je préfère vous dire que je suis Touareg. Mais on peut quand même vous situer. Donc, je suis Touareg d'origine malienne de Tombouctou. Mais depuis les années 91, je me suis retrouvée hors de mon pays. Donc, j'ai parcouru plusieurs pays, dont la Mauritanie, le Burkina Faso, l'Algérie, la Suisse. Et je me retrouve aujourd'hui au Québec.
On parle de bonne gouvernance. La thématique, c'est la bonne gouvernance et de la participation des peuples autochtones, justement, à tout projet et toute question qui puisse les concerner. Comment est-ce que cela s'applique concrètement pour vous et pour votre peuple, en fait, pour les Touareg?
Alors, pour mon peuple, d'abord aujourd'hui, qui est un peuple qui est pour la portion Touareg du Mali, qui se retrouve hors du Mali, qui se retrouve aujourd'hui dans des camps de réfugiés. La première application, c'est que dans ces camps de réfugiés, qu'on tienne compte de la particularité de ce peuple pour l'administration d'une aide quelconque, par exemple pour les soins de santé, pour l'éducation, il faut qu'on tienne compte de la particularité des Touareg. Et même pour l'octroiement des moyens de subsistance, les endroits choisis comme endroits de refuge, ça doit être adapté au mode de vie des Touareg qui sont des nomades éleveurs. Souvent, les Touareg qui ont pu fuir avec un peu de leur bétail peuvent se retrouver dans des endroits où ils ne peuvent pas avoir de pâturage, etc.
Vous avez élucidé un peu par rapport au bétail et au mode de pâturage, à la nécessité du pâturage. Mais est-ce qu'il y a d'autres modalités qui sont très spécifiques aux Touareg?
Par exemple, je pense que c'est le Programme alimentaire mondial qui s'occupe avec l'UNHCR de l'octroiement des vivres et tout. Il faut que ces vivres qui soient donnés soient des vivres que les Touaregs ont l'habitude de consommer. Par exemple, nous sommes des grands buveurs de lait. C'est notre alimentation principale. Donc, il faut qu'on puisse avoir des denrées qui sont utilisées habituellement, le sucre, le thé. Donc, c'est une partie de cela. Donc, concernant les soins de santé, il faut une approche culturelle. Ça, c'est déjà la base pour tout soin de santé, dans tout pays déjà, mais particulièrement chez les Touareg, il faut savoir comment aborder, par exemple, une femme Touareg ou un homme Touareg par rapport à un service de santé. Donc, la question n'est pas seulement de pouvoir parler la langue, mais aussi de s'imprégner de la culture. Il y a des choses qui ne se font pas. La personne se sent insultée et ça n'encourage pas les gens à venir consulter. Il y a des questions qui sont vraiment très taboues chez les Touareg. Par exemple, une femme ne peut pas facilement parler de sexualité avec un homme comme soignant médical. Ce n'est pas des questions religieuses, mais c'est la pudeur. Il y a aussi le fait qu'un homme ne va pas descendre son pantalon pour une injection intramusculaire devant une femme. C'est comme une baisse d'estime de soi. Donc, c'est quelques exemples là.
Alors on parle aussi en parlant du fait que beaucoup de Touaregs se retrouvent en dehors du Mali. Est-ce que justement, et en parlant du fait des questions d'impliquer les peuples autochtones dans les questions qui les concernent, le Mali vit un moment de l'histoire particulier en ce moment avec ce qui a été la sécession de la Zawad. Est-ce que aujourd'hui, dans le processus de réconciliation et de paix qui a lieu au Mali, les Touaregs sont impliqués en tant que tels?
Moi, je dirais que les Touaregs ne sont pas impliqués. Bien sûr, on voit les groupes rebelles qui sont, disons-nous, impliqués. Mais moi, je ne vois pas une implication réelle parce que les groupes rebelles ne représentent pas la majorité des personnes. Ce ne sont pas eux qui sont ces personnes qui sont dans les camps des réfugiés. Ce ne sont pas eux qui se déplacent. Ce ne sont pas eux qui perdent une partie de leur vie. Pensez aux enfants qui passent des années sans étudier. Moi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est de ne pas savoir se projeter dans l'avenir. Donc, je dirais que tant que les décisions de retour et de paix ne sont pas élaborées au niveau même de la base, au niveau des réfugiés dans les camps, de ces femmes veuves, de ces vieillards qui se retrouvent affaiblis, mais dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, qui sont, je dirais, en un mot perdu. Tant qu'eux, ils ne sont pas impliqués, je dirais qu'il n'y a pas implication des Touaregs dans le processus de paix au Mali.
Vous avez évoqué votre parcours personnel. Ça vous gêne de le partager?
Donc, il y a précisément 23 ans de cela, en septembre 91, j'habitais un petit village au Mali. Mon père y travaillait comme fonctionnaire de l'État malien en tant qu'ingénieur d'élevage. Puis un beau jour, sans rien comprendre, nous vivions avec nos vaches, notre bétail et tout. On a été attaqués par le fait que nous soyons Touaregs. Et ce jour-là...
Qui vous a attaqué?
Il y avait un peu de tout, il y avait tout le monde, mais je sais que la seule raison pour laquelle on a été attaqué, c'était que nous sommes Touaregs, j'avais 9 ans. Sinon, c'était un village calme où on était tranquille et tout. Ensuite, on s'est retrouvés réfugiés sans rien, sans chaussures, parce qu'il fallait partir, sinon on mourait. Ils venaient chercher mon père pour le tuer, mais ils ont tué mon oncle devant nous avec des armes blanches, des bâtons, des couteaux et tout. Puis après ça, on s'est retrouvés en Mauritanie comme réfugiés, où le système éducatif, justement, n'est pas du tout adapté au nôtre, parce qu'au Mali, nous, on est francophone, puis on se retrouve tout de suite avec un système éducatif arabophone. Donc, ce n'était pas facile pour nous. J'avais des frères et sœurs qui étaient à des niveaux d'études plus élevés que moi, puis on a dû perdre des années d'études à cause de ça. Donc, vu que le système éducatif n'était pas adapté, on s'est retrouvés ensuite au Burkina Faso, où c'est un pays francophone comme le Mali. Donc c'est là que j'ai suivi le reste de ma scolarité parce que mon père, heureusement, arrivait à travailler et donc payait nos études et tout. Ensuite, je me suis retrouvée en Algérie pour faire les études de médecine. Et puis là encore, je n'avais pas de bourse de l'État du Mali. Donc, malgré cela, j'ai quand même continué mes études et puis j'ai réussi à avoir mon diplôme de médecin. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, mais j'ai grandi dans la lutte pour un mieux-être pour ma communauté. Je me rendais compte du privilège que j'avais quand même parce qu'il y avait des jeunes de mon âge qui n'avaient pas eu cette opportunité parce que si tu n'avais pas quelqu'un qui pouvait financer tes études, tu n'allais pas loin. Et puis rien ne te motivait à aller plus loin parce que c'est un cycle de rébellion, puis ensuite vous êtes chassé, vous revenez, mais nous on n'est jamais reparti après ça. Donc ensuite, je me suis dit que des études de médecine, ça ne suffisait pas. Il faudrait que j'aie une autre expérience dans l'action humanitaire. C'est bien beau d'être médecin, mais il faut aussi savoir comment approcher réellement les gens, comment avoir des contacts avec d'autres organisations qui ont plus d'expérience aussi. Certes, j'ai l'expérience du terrain, je sais comment me comporter avec un Touareg. Il faut que mon action entre dans tout un système d'organisation et tout. Mon projet, c'était de travailler à Kidal comme médecin, parce qu'il n'y a pas de médecin non seulement Touareg, mais pas aussi de médecin femme. Ça, c'est un grand avantage. Donc là, je suis allée pour un master en action humanitaire à Genève, qui était financé par plusieurs organisations, mais principalement par mon école, qui est le Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève. Et là, j'ai fini mon master, mais malheureusement, dès que je l'ai fini, il y a les hostilités qui ont repris à Kidal, et je ne peux pas réaliser mon rêve de travailler avec mon peuple et pour mon peuple.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez de retourner à Kidal maintenant que les choses semblent peut-être...
Non, je ne pense pas que les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien. Je ne me sens pas en sécurité de retourner là-bas. C'est vraiment flou ce qui se passe. Il n'y a rien de clair. Il n'y a pas de garantie de sécurité. Donc, je trouve que ce serait un gaspillage de personnes que j'aille me faire tuer là-bas. Je me sens vraiment pas... Si c'est pas la section terroriste qui va m'enlever, ce serait une disparition mystérieuse. Non, je n'envisage pas actuellement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement ce contexte? Vous avez dit tout à l'heure, il y a les Touaregs et il y a les rebelles et c'est pas la même chose. Et il y a les terroristes aussi maintenant.
Oui, je ne pense pas être bien placée pour expliquer le contexte parce qu'il est vraiment flou. Il faut une bonne politologue pour l'expliquer parce que même les grands politologues n'arrivent pas à l'expliquer. Mais je vais vous éclairer par rapport à ce que j'avais dit antérieurement. Quand je dis il y a les rebelles et puis il y a les Touaregs, non, il y a les rebelles... sont des Touaregs, mais je vous dis juste qu'ils ne sont pas représentatifs de toute la communauté Touareg. C'est comme quand vous avez un gouvernement, vous avez un gouvernement occidental, vous avez des députés et chaque député représente, par exemple, une vision donnée. Donc, les rebelles, ils ont des revendications.
Mais elles sont étroites par rapport aux revendications de la population.
Oui, certes, on veut tous une autonomie, on veut tous avoir notre pays, du moins pouvoir décider de nos politiques de santé, d'éducation, etc. Mais on n'a pas la même vision que ça ne s'applique pas de la même manière.
Alors vous vous retrouvez aujourd'hui donc en tant que représentante, membre de cette instance permanente sur les questions des peuples autochtones. Qu'espérez-vous pouvoir apporter?
Déjà, par rapport à mon expérience humanitaire, à mes connaissances en action humanitaire. Donc, j'espère apporter mon expertise au sein du forum duquel je fais partie. Donc, notamment sur les questions humanitaires africaines dont j'ai certaines connaissances quand même. Et puis, surtout sur les questions de santé touchant les nomades, parce que c'est plus mon point focal là.
Et c'est avec le plaidoyer engagé de Meriem Aboubakrine que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Une édition qui vous a été présentée par Christina Silvero avec la collaboration de Rebecca Mudio et de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.